Espace Public, Couleur FM, Thierry Bord, bonjour. Alors, une émission dédiée aujourd'hui à la COP21. Alors, la COP21, c'était au début du mois de décembre. Là, on vient de passer Noël, c'est bientôt les festivités du Nouvel An. Mais on va essayer de se rappeler un petit peu de cet enjeu primordial qui s'est passé il y a un petit peu moins d'un mois. C'était à Paris. Le monde entier, les États, les nations du monde entier se sont réunis pour essayer de trouver un accord autour des questions du climat. Alors, au moment de frapper avec son marteau, Laurent Fabius, pour entériner l'accord de Paris, Laurent Fabius dit « Ce marteau est petit, mais il peut faire de grandes choses ». C'était le 12 décembre à 19h32 et ainsi s'achevait la quinzaine, ou les trois semaines, pardon, de négociations entre les États, entre les industriels, les collectivités, avec autour la pression de la société civile écologiste, avec comme objectif, nous dit-on au départ, de limiter le réchauffement climatique entre 2 et 3 degrés. Au final, on nous a annoncé des accords avec 1,5 degré, une étape extrêmement importante semble donc avoir été franchie, avec sans doute, plus que jamais, une conscience mondiale autour de la gravité des enjeux, avec y compris des pays producteurs de pétrole, de ressources fossiles, avec des pays qui ont besoin d'un développement qui commence eux aussi à être obligés à suivre le mouvement, même si l'allant des pays les plus pauvres, des pays les plus fragiles face aux conséquences potentielles du réchauffement climatique était bien plus visible que ceux de l'Arabie Saoudite ou des Chinois par exemple. Alors au final, 1,5 degré pour l'accord, c'est effectivement plus que on ne l'avait espéré. Mais est-ce que ça ne cache pas autre chose? Est-ce que finalement on va pouvoir respecter cet engagement? Est-ce que cet accord est suffisamment contraignant? Peut-être, selon tous les observateurs, et on entendra à la fin de cette émission Bruno Charles, un élu lyonnais qui était au Bourget, à la COP21, nous dire que ben, peut-être ça ne sera pas suffisant et qu'il faut, de la part des citoyens, de la part de la société civile, et de la part aussi des villes, des communautés d'agglomération, des régions, des départements, de toutes les collectivités locales qui agissent en faveur du climat, alors peut-être il faudra encore continuer à maintenir la pression. Alors voilà, ben, nous aussi, on était à Paris à ce moment-là, les 5 et 6 décembre, pas tout à fait au Bourget, c'était à Montreuil, pas très loin, mais pas tout près non plus, parce que le Bourget, c'était l'état d'urgence et il fallait le protéger. Alors tous les citoyens engagés, investis dans les luttes pour l'environnement, pour la sauvegarde du climat dans le monde entier, se sont rassemblés au Village Mondial des Alternatives, c'était à Montreuil. Alors on y était aussi, on a posé un studio avec les amis de Radio Pluriel de Lyon, on était là, Couleur FM, et puis il y avait aussi Politis, il y avait Reporter, il y avait Basta, et voilà, l'occasion de beaucoup de rencontres. Alors on va vous faire entendre un ou deux des témoins qu'on a rencontrés à ce moment-là, notre petit studio à Montreuil. Alors on va commencer par Hervé Kempf. Hervé Kempf, c'est le rédacteur en chef de Reporter. Reporter, c'est le magazine, la revue en ligne de l'écologie dont on parle beaucoup actuellement. Et puis on va entendre une dame qui s'appelle Evelyne Heutebroek, pardon pour la prononciation. Evelyne Heutebroek est une députée de Bruxelles, au Parlement de Bruxelles. Elle est élue depuis assez longtemps et elle est très expérimentée dans l'art de la COP. Elle était là encore au Bourget, elle est venue nous voir à Montreuil. Et puis nous parlerons aussi de monnaie complémentaire, parce que Montreuil, Alternatiba, le Village Mondial des Alternatives, c'est aussi tout un tas de solutions que la société civile nous présente. Alors on ira faire un tour du côté du Pays Basque et de Montreuil pour savoir comment on utilise des monnaies complémentaires. Voilà, donc mais pour commencer, on va retrouver Hervé Kempf de Reporter qui va nous expliquer un peu ce qu'est Reporter et puis surtout comment il voit la COP21, c'était en plein milieu de celle-ci. Le studio de Médias Citoyens à Montreuil, toujours à côté de la mairie, c'est Alternatiba, c'est le Village Mondial des Alternatives et c'est la COP21, tout ça en même temps. On continue le tour d'horizon des acteurs que l'on croise et en particulier des acteurs de médias avec maintenant avec nous Hervé Kempf de Reporter, le magazine en ligne reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Merci de venir nous voir. Alors reporter.net en pole position, j'allais dire, depuis pas mal de temps parmi les magazines, parmi les revues sur la thématique de l'écologie. Alors, comment va Reporter? C'est un pari fou, Reporter, au départ.
Il va bien. Je sais pas s'il était fou, mais en tout cas, ça fait finalement plus de 2 ans qu'on est vraiment là. C'est le quotidien de l'écologie, et ça veut dire que tous les jours sur Internet, il y a un regard posé sur l'actualité avec la lumière de l'écologie. Donc on arrive à tenir ça depuis 2 ans. L'équipe a grandi. On est maintenant 4-5 journalistes permanents qui sont payés, ce qui est important parce que le travail de journaliste doit être payé. Il y a plus de 25 000 visites par jour. Et je crois qu'on arrive à sortir de la bonne information sur sur le climat en ce moment, sur l'état d'urgence, puisque évidemment dans début décembre c'est vraiment lourd ce qui se passe, et puis sur énormément de sujets d'écologie qui vont du jardin à la nourriture, à l'alimentation, à la politique, aux élections, voilà. Et on est financièrement bien, c'est-à-dire qu'on fait gaffe à nos budgets évidemment, mais on a 6 mois de trésorerie devant nous, et sachant qu'on vit essentiellement des dons d'électeurs et de travail payé, de travail rédactionnel subventionné par des fondations. Et pour l'instant, on tient bien le coup, sans capital, sans publicité, en étant en accès libre.
Donc uniquement lecteurs et fondations, un petit peu de subventions ?
Non, c'est ça, les fondations, les lecteurs pour 40%. Et puis aussi, on fait je fais des conférences ou des animations de débat parce que mes bouquins ont intéressé. Et dans ce cas-là, c'est payé et c'est facturé par la PIL, c'est-à-dire que l'association de soutien de reporters. Et c'est un des moyens de financement de reporters qui n'est pas négligeable.
Le modèle économique est viable à long terme ?
Écoutez, c'est pas un modèle, c'est le système. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est là depuis 2 ans. Je reste toujours extrêmement prudent. Alors avant la plaisanterie dans l'équipe, je disais peut-être que dans 4 mois, on sera pas là, mais pour 4 mois, on est là. Maintenant, je le dis plus en fait, et on est sûr d'être là les 6 prochains mois. Après, ce qui est amusant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de médias en fait, de la presse dominée, c'est-à-dire qui appartient aux capitalistes, qui va mal. Et il y a la presse alternative qui se bagarre, qui fait des efforts, qui est pas très bien payée, mais qui finalement est pas en si mauvaise santé que ça. En tout cas, nous, on sait qu'on est là début 2016.
Et qui est très créative aussi pour trouver d'autres manières de faire, justement, qui permettent encore de faire du journalisme, qui permettent de retrouver de la liberté, de l'indépendance.
Oui, je crois que, je sais pas si on est créatif, on fait la base, c'est de la bonne information. Alors, je suis le plus mal placé pour dire qu'on fait de la bonne information, mais c'est ça, c'est de faire l'information,
c'est de la bonne information
dont les autres ne parlent pas, et avec le souci de l'exactitude, de la pertinence, de la diversité. Et je crois que c'est ça dont on a besoin, dont beaucoup de gens ont besoin dans le mouvement social, dans le mouvement écologique, puis plus largement, de plus en plus de gens, de citoyennes, de citoyens se rendent compte que le discours qui est diffusé par les médias dominés ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc on a besoin de voix différentes, et je pense que voilà, il faut chercher à être ces voix différentes en faisant un vrai bon travail d'information, d'exactitude.
Alors information dominante, information dominée, on a en ce moment le Bourget d'un côté avec la COP21, des mobilisations de la société civile de l'autre, avec par exemple ici Alternativa. On est un petit peu dans les mêmes rapports. Vous suivez évidemment la COP21 depuis le début. Quel est votre sentiment par rapport à tout ce qui se passe ?
La COP21, c'est de toute façon le grand théâtre de l'ONU, mais quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment très important que les Nations Unies, et il faut se rappeler que les Nations Unies, c'est un très bel idéal, c'est tous les pays du monde qui se retrouvent à une même table pour discuter ensemble d'un problème commun, c'est mis en théâtre. C'est un endroit où on voit visiblement l'ensemble des sociétés humaines qui réfléchissent en commun sur un sujet. Et de ce point de vue-là, c'est très passionnant, c'est très important à suivre. Après, c'est la bagarre, c'est une bagarre diplomatique, c'est une bagarre sur le financement, c'est une bagarre entre les pays du Sud et les pays du Nord, et c'est fondamentalement une bagarre autour d'un système de croissance et d'une économie productiviste et très inégalitaire contre l'aspiration à un monde nouveau qui échappe à la crise climatique. Et c'est là l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que la négociation de cet accord est très difficile parce que fondamentalement, c'est un accord qui devrait arriver, à dire, écoutez, on change de système. Je le fais un petit peu vite, là. On change de système. On change de cette inégalité incroyable, on change de la productivisme et de la croissance à tout prix, et on rétablit des nouveaux rapports humains. Et là, évidemment, les dirigeants de la majorité des États de la planète ne veulent pas aller là. Donc c'est fondamentalement là que se trouve le nœud du problème. Ceci dit, ça reste un lieu de discussion, de diplomatie très intéressant. Et malgré tout ce que je viens de dire, je pense que s'il y a un accord qui en sort, il y a quand même de bonnes chances que ce soit un pas en avant, même s'il sera toujours insatisfaisant. Parce que faut pas oublier que derrière tout ça, il y a la gravité d'une situation écologique et climatique qui est réelle, et où il faut, j'allais dire, bander toutes ses forces dans la même direction, en sachant qu'il y aura du conflit et de la bagarre, ça c'est certain. certain.
Est-ce que vous sentez qu'il y a une porosité ou pas du tout entre l'expression de la société civile par les différentes manifestations qu'on a pu voir ici, Alternatiba, et ce qui se passe là-bas au Bourget?
Non, c'est presque deux univers parallèles, et nous on les suit de manière séparée, c'est-à-dire qu'il y a une journaliste, Émilie Massemin, qui est au Bourget presque en permanence, et moi je la joins de temps en temps, et puis sur Paris et l'Île-de-France, d'autres journalistes, et on suit d'un côté la société civile et de l'autre le Bourget. C'est deux mondes qui communiquent pas vraiment, mais en même temps je pense que c'est important qu'il y ait une présence de la société civile, d'écologistes, d'activistes qui maintiennent une pression quand même, qui font un bruit d'actualité pour dire aux négociateurs, pour dire aux États, écoutez, vous n'êtes pas dans votre bulle diplomatique à discuter de textes abscons, il y a un vrai problème, il y a une présence, on est attentif et on veut se faire entendre. De ce point de vue-là, je crois que ce qui se passe à Paris, à Montreuil, puisque ce week-end on est à Montreuil au Village Mondial des Alternatives, et la semaine prochaine jusqu'au 12 décembre, il va se passer des choses, et que après, c'est ça surtout, que quand les portes du Bourget se seront refermées, qu'il y aura un accord vraisemblablement très difficile à comprendre par le commun des mortels, mais qu'il faut qu'il y ait un mouvement climatique qui continue, un mouvement pour voilà. Et ce qui va être difficile, en particulier dans le cas de la France, avec l'état d'urgence et la dérive autoritaire de plus en plus claire du capitalisme et des gouvernements actuels.
Alors justement, en parlant de ça, c'est facile de faire son boulot en état d'urgence pendant la COP21. J'ai en tête l'expérience de votre journaliste hier au Grand Palais, par exemple.
Alors, en fait, ça devient un peu compliqué parce que, effectivement, comme on suit beaucoup les mouvements sociaux, on avait un journaliste qui était dans la NAS la semaine dernière à La République, un autre qui était juste dehors qui a témoigné. Hier, Marie était dedans, et on a un autre collaborateur qui a été, lui, un peu violenté par la police. Et c'est vrai. Et on a aussi... on est avec... avec les gens qui pensent qu'il est nécessaire d'agir et de se faire entendre en ce moment. Donc parfois c'est compliqué, mais nous de toute façon on reste toujours présent à ça, toujours de manière pacifiste, et de toute façon on est témoin, voilà, on suit les mouvements, on en témoigne. Mais c'est vrai que ce que je veux dire par là finalement, c'est que l'état d'urgence, on le sent, sert aussi à réprimer le mouvement écolo, à convaincre les gens qu'il faut rester chez eux, à regarder la télé et surtout à ne pas bouger parce que dehors c'est terrible avec tous ces tueurs armés de Kalachnikov. Donc laissez l'état vous protéger, et il faut lutter contre ça en fait. Et il voudrait aussi éteindre la voix de la presse, faire en sorte que on sent que les presses libres aussi pourraient être dans le collimateur de ces gouvernements autoritaires. C'est pour ça qu'il est absolument important ce que vous faites, ce que nous on fait, ce que d'autres font, que les médias alternatifs se bagarrent sur tous ces mouvements en disant toujours nous devons témoigner et rapporter la parole de ce que disent les gens dans la rue ou ailleurs.
Et en tout cas, pour continuer à avoir une information citoyenne et clair de la situation, continuez à lire reporter.net. Merci Hervé Kempf.
Merci beaucoup. Au revoir.
Thank you. Canaria pour protéger son île. El Silbo pour braver la Guardia Civil. Escalade les jardins en escalier. Sur le volcan de la balade, El Silbo perce la fumée. Et me voilà, petit géant, prêt à siffler dans le vent. Les deux, trois mots que j'ai gardés s'envolent vers toi. Comero Bonifacio.
Vous êtes bien sûr Couleur FM, nous venons d'entendre Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter. Reporter, le magazine de l'écologie que vous pouvez retrouver sur internet. Voilà, on va continuer ce tour d'horizon de la COP21. Je vous rappelle qu'avec Couleur FM, nous étions à Montreuil les 5 et 6 décembre, à la rencontre de ces acteurs de la société civile qui essayent de bouger dans le bon sens les choses autour du climat. Alors il y avait de nombreux citoyens et puis il y avait aussi des élus qui se promenaient là. Et on a rencontré une élue belge, elle s'appelle Evelyne Uytebroek. Elle est députée au Parlement de Bruxelles et voilà longtemps maintenant qu'elle fréquente ces négociations internationales autour du climat. Elle est vraiment très expérimentée dans l'art de la COP et nous l'écoutons maintenant. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, vous êtes députée au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale.
Oui.
Et conseillère communale à Forêt, une commune
oui.
de Bruxelles.
Oui.
Et alors, vous êtes venue naturellement pour la COP21.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Mais vous êtes venue d'une manière assez particulière.
Je ne sais pas si elle est particulière, mais en tout cas, c'était très sportif puisque je suis venue à vélo. Bon, alors, de Bruxelles quand même, et puis on n'a pas pris les autoroutes, on a pris des petites routes.
Ça, c'est dangereux,
donc,
les autoroutes
à vélo. Ça nous a fait quand même 350 km. Je vous dis directement nous, parce que je n'étais pas toute seule, on était environ 300. C'est une épopée qu'on avait préparée depuis plusieurs mois avec tout un réseau qui s'appelle le réseau Climate Express. Il était prévu que nous soyons 10 000 Belges à venir en bus, en train, à vélo, en kayak. Et finalement, avec tous les événements qui se sont déroulés, puis la manifestation qui a été annulée, parce qu'en fait, l'objectif, c'était de venir à la manif du 29, les bus et les trains ont dû être annulés, mais on a gardé le vélo et les 6 kayaks. Et donc, le week-end donc, du 28 et 29, nous sommes arrivés à vélo après 5 jours de pérégrination à travers la Belgique et la France.
Et alors pendant cette pérégrination, j'imagine que vous avez rencontré des tas de gens, que vous avez dû parler beaucoup.
Ouais, c'était une expérience extraordinaire, non seulement physique quand même, parce que c'est pas évident, hein, puis c'est pas toujours plat non plus, puis il faisait froid et on a eu du brouillard, on a eu de la pluie, mais c'était une expérience très très enrichissante que je regrette pas du tout. D'abord parce que moi, comme parlementaire, député écologiste, c'était aussi le moyen d'être très proche aussi des associations, d'avoir des discussions avec eux. Quand vous roulez tous à vélo, vous souffrez des mêmes maux, ça vous rapproche quand même, et puis ça permettait des discussions. Et je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui encore plus, c'est que les représentants politiques soient proches et des citoyens et des associations. Et ça, c'était un formidable moyen. Ça nous a permis aussi, dans les villes où nous avons été, d'être souvent reçus et bien reçus. J'ai un exemple, c'est le maire de Saint-Gobain qui nous a reçus d'ailleurs à midi, parce que bon, le midi, nous mangions dans des réfectoires d'école. Et bien, alors que pas mal de maires en France étaient un petit peu effrayés de voir venir 300 cyclistes. Bon, à cause des événements, on peut aussi comprendre. Voilà, on est toujours dans une période qui est assez anxiogène et hyper sécuritaire. Et donc, ils voulaient pas nous recevoir. Eh bien, ce maire-là de Saint-Gobain a dit « Bah oui, moi je continue à vous recevoir. Voilà, ma commune est ouverte. Il n'y a pas de problème. Vous êtes là. » On a eu un super contact.
Super contact, donc avec des populations différentes. Et alors, dans ce groupe de 300, vous parlez d'associations, mais vous étiez donc des représentants divers, des élus, des politiques, des associatifs.
Il n'y avait pas beaucoup d'élus, je vais vous dire qu'on était trois élus écologistes. Et puis, dans les associations, il y avait, oui, je vous dis Climate Express, mais il y avait des associations, ça allait de Greenpeace, au CNCD, 1111, Oxfam, qui sont toutes des associations aussi, pas uniquement environnementalistes, hein, c'était la justice sociale aussi, c'était des associations sociales. Donc, il y avait un assez beau mélange. Et puis, alors, on peut dire qu'il y avait à peu près moitié-moitié néerlandophones et francophones. C'était important pour nous en Belgique aussi, et ça a été très enrichissant. Même si on vit dans un pays qu'on dit bicommunautaire, c'est-à-dire qui parle les deux langues, on ne se mélange pas toujours très bien. Et donc, sur son vélo, c'était de rouler avec effectivement flamands et francophones. Et puis aussi, ce qui était bien, c'était intergénérationnel. Vous aviez des très jeunes dans des associations, comme vous aviez les grands-parents pour le climat qui étaient avec nous, et des personnes beaucoup plus âgées.
Donc la question du climat, de sauver la planète, est plus importante finalement que vos dissensions nationales et linguistiques.
Totalement. Oui. Et c'est vraiment transversal. Et je crois qu'on commence enfin à comprendre. Vous savez, moi je suis écologiste depuis 1982, j'ai lu depuis 89. Donc c'est vous dire si c'est un long combat. Mais enfin, on commence à voir que cette question du climat, de l'environnement, des énergies, de la transition énergétique, eh bien, elle rejoint aussi les questions sociales, les questions culturelles, les questions économiques. Et ça, c'est de plus en plus. Et aujourd'hui, on le voit ici avec Alternatiba. Il y a des associations de toutes parts qui sont là, des associations citoyennes. Et ça va de la participation citoyenne à la justice sociale, aux confréries paysannes, enfin bon, tout ça. Donc voilà, la question climatique a vraiment aujourd'hui transcendé toutes les questions. Et ça, je pense que on l'avait pas il y a 20 ans, il y a même 10 ans, quoi.
Et alors, qu'avez-vous fait ici depuis que vous êtes arrivé?
Alors, j'ai d'abord été soutenir nos experts au Bourget, qui malheureusement peuvent pas venir à des manifestations comme celle-ci parce que ils sont en train de lever les brackets, comme on dit en jargon d'experts et de négociateurs. Et donc j'étais les voir. J'étais aussi jeudi parce que je fais partie de tous les réseaux des villes durables, donc Energy Cities, qui a fait une conférence à Paris. Et puis hier aussi, j'étais au sommet des villes organisé par la ville de Paris. Et donc voilà. Puis je suis là aujourd'hui et je reviendrai jeudi et vendredi pour les négociations.
Qu'est-ce qui vous a marqué au Bourget ?
Au Bourget, qu'est-ce qui m'a marqué au Bourget ? Une très bonne organisation, ça c'est quand même. Moi qui ai fait quand même beaucoup de COP, je peux dire que c'était quand même pas mal organisé. Ça reste quand même très cloisonné. D'un côté, des négociations un peu entre experts, et puis de l'autre côté, à côté, ceux qui rentrent dans l'autre village, comme on appelle, il y a un autre espace où ceux qui n'ont pas de badge peuvent aller. Je continue à fort regretter, comme élue, comme négociatrice, qu'il n'y ait pas plus de porosité entre les différents espaces. Montreuil ici, c'est super, c'est bien, mais il faudrait aller arracher les experts qui discutent là-bas au Bourget pour qu'ils viennent ici.
Ça n'a pas l'air d'être fait pour.
Non, mais ce serait bien, parce que bon, faut pas oublier non plus que la COP21, le Bourget, c'est pas uniquement des chefs d'État. Hein. Nous, notre délégation, il y a 40 personnes, mais c'est des 40 personnes qui travaillent dans les administrations, qui sont des gens qui s'y connaissent bien et qui aimeraient bien venir à ceci ou même inviter des gens comme ici pour montrer les négociations et montrer un petit peu comment ça se passe aussi une négociation internationale. Donc là, on y est.
Et alors, vous qui avez cette expérience, est-ce que vous êtes confiante sur les résultats de cette COP?
Hein. Vous savez, c'est ma 12e COP ici, moi. Confiante. Je peux rien vous dire aujourd'hui parce que d'expérience, je sais que les choses se jouent dans les dernières 48 heures. Je peux vous le dire. Moi, j'ai vu des discussions internationales comme ça qui se sont renversées renversé dans les trois dernières heures, hein, la nuit du vendredi au samedi. Hein. Et donc, tout le monde fait un maximum d'efforts. On lève le plus de parenthèses possible. Mais on sait bien que c'est dans les trois derniers jours où arrivent des chefs d'État ou quoi que les choses vont se décider. Et qui vont souvent se décider à partir de relations humaines, de confiance qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres. Ça peut bloquer tout à coup, personne ne sait pourquoi, mais parce qu'il y aura aussi le chef d'État, par exemple, de la Bolivie, qui dira, ben voilà, vous savez, toute la décision doit se prendre au consensus. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, plus de 150 pays, consensus, voilà. Donc moi, j'ai vu comme ça des COP qui ont bloqué pendant des heures à cause d'un pays qui bloquait, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais voilà. Et donc, il y a un moment où ça va être les relations entre chefs d'État aussi qui vont jouer.
Alors, dernière question, peut-être, vous parliez de la porosité que vous souhaiteriez entre, ouais, justement ces actions de la société, ouais, civile et celles de la COP du Bourget. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet écart qui se creuse entre ce versant officiel et puis ce versant plus militant, citoyen, ou, ouais, qui a affaire au... Ouais. À la police, qui a affaire, ouais, à l'impossibilité de manifester.
Vous le demandez à une élue qui est ici. Je voudrais savoir. Je voudrais d'ailleurs savoir combien d'élus sont venus. Moi, je me suis dit, il faut que je vienne ici. C'est ici aussi qu'on doit être. Je sais pas s'il y a un écart qui se creuse par rapport à avant. Ça, je suis pas tout à fait sûre. Moi, je vois à Bruxelles, en tout cas, les mouvements citoyens qui sont de plus en plus nombreux. Évidemment, bon, nous, comme écologistes, on essaye d'être très, très proches de ça. Moi, je suis plutôt ravie que ça existe. Je suis plutôt ravie qu'il y en ait de plus en plus et de plus en plus sur ces questions-là. Mais c'est vrai que si un fossé se creuse, là, on va dans le mur. Et de toute façon, aux élections, les élus, ils vont le payer. Hein. Ils vont le payer. Parce que d'abord, les citoyens... bon, chez vous, le vote n'est pas obligatoire. Chez nous, il l'est, mais quand même... ben les citoyens, ils auront plus confiance. Et donc, ils vont se retrouver peut-être plus dans des mouvements citoyens que dans des partis politiques, ce qui est dommage. Moi, qui suis une élue de longue date, ça me fait mal. Ça me fait mal à ma militance, ça me fait mal parce que j'ai toujours trouvé que je devais m'engager politiquement, mais que ça ne faisait pas en sorte que je ne sois plus une militante citoyenne. Donc ça me fait un peu mal, et donc là il y a un travail à faire, mais je dirais un travail de deux côtés. Il faut pas qu'il y ait une méfiance du côté des mouvements citoyens qui se fassent automatiquement par rapport aux politiques, et que le politique soit dédaigneux ou arrogant par rapport aux mouvements citoyens. Donc il y a quand même du chemin à faire des deux côtés.
Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle.
Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, cela va de soi. Je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que.
TikToker. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Vous êtes toujours sur Couleur FM 97.1 dans le Nord-Isère, dans cette émission Espace Public consacrée toujours à la COP21 qui se déroulait au début du mois de décembre à Paris. On vient d'entendre Evelyne Heutebrook, une députée bruxelloise qui ne mâche pas ses mots. Et puis nous allons continuer notre tour d'horizon. Nous avons rencontré différents acteurs politiques, citoyens qui étaient là-bas à Montreuil au Village Mondial des Alternatives. Et nous avons rencontré notamment deux personnes qui viennent, l'une de Montreuil, l'autre du Pays Basque, et qui se préoccupe de monnaies complémentaires. L'une parle de l'euchko, c'est la monnaie complémentaire du Pays Basque. L'autre parle de la pêche, c'est celle qui a cours à Montreuil. Et nous allons tout apprendre, tout comprendre sur la monnaie complémentaire. Bonjour Claire, bonjour Gilberto.
Bonjour.
Lequel, avant toute chose, pourrait, d'entre vous, pourrait nous expliquer qu'est-ce que c'est une monnaie locale ?
Une monnaie locale, c'est une monnaie, comme toute autre monnaie, qui s'est porter des valeurs citoyennes et qui veut soutenir l'économie locale et réelle.
Alors moi, si je peux donner une autre définition, parce que c'est pas comme toutes les monnaies, justement. En tout cas, donc je vais parler de l'euchko, qui est la monnaie du Pays Basque. Nous, justement, notre objectif, c'est de sortir du modèle économique et un petit peu du modèle de monnaie. C'est redonner son premier sens à la monnaie. Ça veut dire que c'est juste un instrument pour échanger entre nous. Et c'est pas fait pour être accumulé. C'est pas un but en soi, en fait, d'avoir plein d'eushko au Pays Basque ou plein de pêche à Montreuil.
Gilberto, vous avez cofondé la monnaie locale à Montreuil qui s'appelle La Pêche.
Exactement. Donc déjà, La Pêche, c'est un nom qui a été choisi par les citoyens de Montreuil suite à un vote. Il y avait eu plusieurs propositions qui avaient été données par les citoyens eux-mêmes. Ces noms est issu en fait du passé des Montreuil, du passé agricole des Montreuil, puisqu'il y avait beaucoup de productions agricoles dont des pêchés. Et donc qui était vendu sur les marchés français à une certaine époque. Donc il y a encore ici d'ailleurs les murs à pêche des Montreuil, d'où le nom de la pêche.
Alors pratiquement ça circule comment ? Comment vous faites pour que les gens l'utilisent ? Ça marche comment ?
Il faut que chacun soit adhérent, aussi bien les utilisateurs de la pêche que les commerçants acceptants.
On adhère à l'association.
Vous adhérez
à l'association. Comment on obtient l'argent ? C'est de l'argent ?
Vous adhérez à l'association et une fois que vous avez adhéré, vous venez au comptoir d'échange où vous changez vos euros en pêche. Il y a des comptoirs d'échange en tout cas une fois par semaine sur différents points de la ville de Montreuil.
Ça marche pareil au Pays Basque, l'eushko ?
Oui, l'eushko, ça marche à peu près pareil, sauf que on a eu la chance d'avoir un développement très très rapide et des salariés qui ont pu vraiment bien développer. Aujourd'hui, c'est devenu une monnaie, la première monnaie locale de France en termes d'utilisateurs. Et du coup, on a beaucoup de bureaux de change qui sont en fait la plupart du temps des commerçants qui adhèrent à l'eushko. Donc ça veut dire que c'est des commerçants chez lesquels on peut acheter tout en eushko. Parmi ces commerçants, il y a des bureaux de change effectivement et c'est super. Parce qu'on peut aussi bien aller chez le dentiste que chez le pharmacien ou bien acheter des produits paysans. Enfin voilà, aujourd'hui, si on veut vivre en eushko, surtout à Bayonne, ben c'est possible.
Bah alors quel est l'intérêt de remplacer l'euro, une monnaie, par l'eushko, une autre monnaie ?
Alors mis à part que c'est rigolo et que on a des jolis billets qui sont faits avec des figures de notre territoire et ben en fait c'est surtout de pouvoir relocaliser l'économie. Parce qu'en fait, un commerçant, quand il utilise une monnaie locale, il ne peut pas après le placer à la banque. Et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est que cette monnaie, c'est une monnaie qui sert uniquement aux échanges. Oui. Donc par exemple, quand je vais dans mon épicerie, j'achète différents produits. Et si mon commerçant il ne s'approvisionne pas chez des producteurs locaux, il est bien embêté. Donc finalement, ça l'incite à acheter par exemple le fromage, enfin le pain, la plupart le miel au Pays Basque pour l'eushko et ça c'est très bien.
Vous êtes d'accord sur cette idée de relocalisation de l'économie grâce
oui,
à cela ?
Oui, bien sûr, parce que en relocalisant l'économie, donc on dynamise l'économie locale et donc on départ par ricochet, donc on dynamise également l'emploi et donc tout ce qui est production locale.
Et avec cet effet aussi de définanciariser en quelque sorte la monnaie, c'est ça?
Exactement. Lorsque vous faites circuler purement et simplement une monnaie, à ce moment-là, elle ne rentre pas dans le circuit bancaire. Et donc, il n'y a aucun risque à ce qu'il y ait une possibilité de capitalisation et également des spéculations financières. Parce qu'il faut savoir qu'avec les monnaies principales actuelles, ces monnaies-là, à hauteur de 80%, elles circulent sur les marchés financiers.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez expliqué la pêche, ça vient de l'histoire, du patrimoine, finalement, de Montreuil. Et au Pays Basque, ce rapport entre le choix de la monnaie et le territoire semble être encore plus évident. Eusko, Euskadi, c'est le Pays Basque. Il y a un côté fortement, pas forcément identitaire, mais un côté de territoire
culturel. Ouais. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'au Pays Basque, on est resté sur un modèle de production, notamment agricole et relativement paysan, relativement localisé, avec pas mal de production de qualité sur le territoire. D'ailleurs, les premiers labels de qualité agricole quasiment en France viennent du Pays Basque. C'est vrai que ce choix du nom, c'est pareil, hein. Je pense que la plupart des monnaies locales en fait ont des noms attaches, qui ont été votés. C'est vraiment dans un processus d'appropriation citoyenne de ce qu'est la monnaie, de ce qu'est l'économie. Le Eusko, on l'a choisi parmi différents noms et c'est vrai que c'est en référence directe avec la monnaie du Pays Basque, c'est ça que ça veut dire.
Et alors, comment se fait-il que l'Eusko soit la monnaie locale la plus développée?
Ben, parce qu'on a eu la chance de pouvoir avoir des salariés. Ça, je pense que ça joue vraiment sur le fait qu'on a eu un travail super qui a été fait par eux pour aller voir les commerçants et pour favoriser ça. Et puis c'est aussi parce que justement, au Pays Basque, il y a les Basques et ils sont heureux d'avoir leur monnaie maintenant et de pouvoir développer leur territoire dans une logique très locale, quoi. Et je voudrais rajouter que c'est pas uniquement pour favoriser l'économie locale, c'est aussi pour créer des solidarités et vraiment un réseau militant. Parce qu'en fait, quand on utilise le Eusko, on signifie notre attachement certes à une économie différente, mais en plus on se connaît plus facilement les uns les autres parce que tous les magasins n'adhèrent pas à le Eusko. Ceux qui adhèrent à le Eusko, c'est parce que justement ils veulent se différencier et du coup ça facilite aussi l'action de consommation ou l'action de consommation responsable. Je sais pas comment on peut l'appeler, il y a plein de façons de l'appeler différentes, mais voilà, c'est aussi ça l'intérêt d'utiliser une monnaie locale où qu'on soit.
Oui, tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, le fait d'utiliser une monnaie locale, ça permet aussi de créer un réseau alternatif qui porte en tout cas toujours, je pense, ces principes qui sont des principes de solidarité, de protection de l'environnement et de citoyenneté.
Comment est-ce que vous êtes parti pour financer le développement de cette monnaie locale?
Alors nous, pour le Eusko, l'argent du départ, c'est les réseaux militants. Le Pays Basque est un territoire très très militant. Et je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'aller vers cette relocalisation de l'économie via une monnaie locale. Et après, maintenant, le financement de ces postes de salariés, il se fait par justement le 1%. C'est-à-dire, pour vous expliquer, un commerçant ou n'importe qui voudrait rééchanger ses Eusko en euros, parce qu'on peut imaginer, je sais pas, un médecin qui a une part trop importante de ses clients qui va le payer en Eusko, il veut rééchanger un petit peu en euros, on va lui prendre 1% sur le montant. Non, je dis des bêtises, pardon. 3%, c'est différent. Et en fait, sur ces 3%, il y a 1% qui va être reversé à l'association du choix de l'adhérent. Par exemple, moi, je suis adhérente, j'ai 100 euros que j'utilise à peu près par mois en Eusko. Il y a 1% de ces 100 Eusko. Un euro, voilà, j'ai le calcul. 1 euro qui va être versé à l'association de mon choix. Ça cumulé, ça va financer des associations. Quand on va vouloir échanger en sens inverse, ces 2%, ces 3% qui vont être payés par les commerçants, ça va financer les emplois.
Est-ce que pour vous, c'est un modèle à multiplier à l'infini afin de se sortir peut-être comme solution locale au pluriel, hein, des ordres globales?
Oui, moi je pense, mais faut revenir sur le terme de base, monnaie complémentaire, c'est complémentaire à l'euro, ça tendra jamais à se substituer totalement. Mais au moins, ça permet des espaces de liberté, moi je trouve, dans la façon de consommer, dans la façon d'être les uns avec les autres, dans nos échanges, de se sentir plus éthique aussi. Parce que derrière tout ça, il y a aussi une charte. Hein, je ne sais pas pour la pêche, mais pour le Jusco, il y a vraiment une charte. C'est-à-dire que les commerçants qui l'utilisent, et donc finalement, nous, quand on est client, on sait que derrière, il y a cette éthique. Les commerçants, ils s'engagent à tout plein de points. Et du coup, c'est une garantie de changer quand même la société dans laquelle on vit. Donc oui, je pense que chaque territoire, pour avoir plus d'autonomie, pour pouvoir un peu changer nos vies, bah, c'est vraiment un outil formidable. Et le but, c'est qu'il y en ait un peu partout.
Donc c'est finalement un système un peu anticapitaliste que l'on fait vivre dans le système capitaliste.
On voudrait porter une nouvelle société, une société un peu alternative et qui porte ses valeurs.
C'est pas qu'on voudrait, c'est qu'on le fait.
Voilà, là où croit le péril naît aussi ce qui sauve. Et ben on vous remercie infiniment. On peut retrouver des informations sur la pêche, sur le Jusco, sur internet peut-être. On tape la pêche, on tape Jusco USKO sur son moteur de recherche préféré, ou vous avez des sites à nous donner?
Voilà, Euskal Moneta, mais c'est E-U-S-K-O, c'est le Jusco, oui, et puis la pêche.
Et si vous tapez sur internet pêche monnaie locale, la première adresse,
à Montreuil. C'est
à Montreuil.
Eh bien, merci à vous deux, merci Claire, merci Gilberto.
Merci à vous.
Merci.
Couleur FM 97.1, vous êtes sur Espace Public. Nous venons de découvrir le fonctionnement des monnaies complémentaires. Alors c'est dans le Pays Basque, c'est à Montreuil, mais il y en a beaucoup partout. Renseignez-vous dans vos localités, sur vos territoires. Peut-être une association, une collectivité a mis en place une monnaie complémentaire. Ça peut être très important. Et pour continuer et pour finir notre tour d'horizon sur la COP21, après ces accords, nous allons rencontrer au téléphone Bruno Charles est, lui, élu à la métropole lyonnaise. Il en est le vice-président en charge de la stratégie énergie-climat au Grand Lyon. Donc, nous l'avons joint au téléphone quelques temps avant les vacances de Noël. Cette émission est enregistrée en différé. Il commente la COP21 et nous parle en particulier du rôle des villes, des collectivités, dans cette pression que nous pouvons tous ensemble mettre sur nos dirigeants afin que ces accords de la COP21, ces accords de Paris ne restent pas lettre morte. Bruno Charles, bonjour.
Bonjour.
Alors Bruno Charles, vous êtes vice-président du Grand Lyon en charge de la stratégie énergie-climat. Vous êtes, on doit le dire, un élu écologiste. Alors ça tombe bien par rapport à la thématique qu'on aborde aujourd'hui dans Espace Public. On s'intéresse de près à la COP21. Ça tombe bien, on s'y était croisé à Montreuil au Village Mondial des Alternatives. Et vous nous aviez raconté que vous étiez un petit peu un pied à Montreuil, un pied à Aubourget. Et vous avez été un observateur attentif de ce qui s'y passe.
Exactement, j'essayais d'être à la fois dans la négociation officielle pour voir ce qui s'y passait, pour participer, et puis il y a en même temps que la négociation officielle des échanges entre collectivités locales qui sont très intéressantes. C'est l'occasion pour moi de rencontrer des gens d'Afrique, de rencontrer des gens d'Amérique du Sud et de comparer les enjeux, ce que veut dire pour nous la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des gens d'Asie aussi, et c'est très très intéressant. Et en même temps, je pense que les choses importantes se jouent avec la mobilisation de la société civile et qu'il faut être des deux côtés. Alors là, c'était pas très pratique parce que les deux lieux étaient assez éloignés, mais j'ai essayer de tenir sur mes deux jambes sans faire le grand écart, on va dire, être en appui et parmi la société civile, mais aussi tenir la place dans les négociations et dans l'espace officiel.
Alors, et justement, la place dans les négociations au Bourget, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous vu?
J'ai suivi déjà, parce que dans le groupe de négociation officielle avec Laurence Tubiana, c'est des gens avec qui on travaille et qui, pour une part, savent ce qu'on fait et qui le portent. Et on avait besoin d'un accord pour pouvoir avancer. Mais je crois que le plus intéressant, c'est qu'il y a une vraie dynamique des collectivités locales du monde. Il y a des engagements des villes qui sont très importants et qui sont presque le principal facteur d'espoir de véritable limitation des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 6000 villes européennes qui ont signé des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre, des engagements chiffrés et vérifiables. Il y a 1000 villes américaines, alors même que l'État fédéral n'a jamais ratifié Kyoto, qui ont signé des engagements qui sont ceux équivalents à Kyoto. Et il y a des villes américaines comme Portland ou Seattle qui font des politiques remarquables, cohérentes dans tous les domaines et qui n'ont pas de leçons à prendre de personne. Évidemment, aux États-Unis, c'est très aléatoire en fonction de la ville où vous êtes. Vous avez des villes asiatiques, aujourd'hui, les villes chinoise prennent des engagements qui sont supérieurs à ceux de l'État chinois. Et donc, c'est très intéressant parce que on compare, on parle des différentes manières de mettre en œuvre ces politiques publiques qui sont destinées à fournir des services aux habitants, parce que toutes nos villes, elles veulent avoir une qualité de ville, avoir une capacité de se déplacer, une capacité de se loger dignement, d'avoir accès à l'éducation, à la santé. Et il faut faire avec un contexte qui évolue et qui évolue pas bien, parce que avec le réchauffement, ça va être un bouleversement du système urbain et une raréfaction des ressources disponibles. Et donc, toutes les villes du monde sont face au même problème. Les villes, c'est 50% de la population mondiale, et puis il y a une grande partie de la population rurale qui travaille pour nourrir ou pour fournir l'énergie aux villes. Donc, c'est vraiment une clé de la transition écologique et climatique. Et ces échanges, je peux vous dire, par exemple, qu'en travaillant avec des villes d'Amérique du Sud, le lien entre justice sociale et lutte contre le réchauffement climatique, il est extrêmement posé, il est posé de manière extrêmement intéressante et beaucoup plus, je dirais, citoyenne et politique sur ce continent, parce que l'accès aux ressources et le fait que c'est les plus pauvres qui vont subir les principales conséquences du réchauffement climatique est posé très clair. Alors que nous, on a tendance à dire, bon d'accord, les problèmes environnementaux, c'est quand on aura résolu les problèmes sociaux et d'abord le chômage et puis après on verra. Quand on va sur d'autres continents, on se rend compte que le lien entre bataille pour la justice sociale et bataille pour la transition climatique sont complètement liés, et ça donne aussi la pêche pour se battre ici pour cette transition écologique.
C'est important, c'est là où se rencontre d'ailleurs, on a beaucoup parlé dans ce magazine de la société civile et de son action, mais c'est là où elle rencontre justement la société politique des collectivités locales. Les villes ont besoin justement de ces initiatives citoyennes, et les initiatives citoyennes ont besoin des collectivités locales pour se déployer.
On a besoin de tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un engagement des États. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'il y a un accord, est-ce qu'il est suffisant? Je crois que Philippe Frémaux, l'ancien directeur en chef d'Alternative Économique, a très très bien résumé les débats en disant on avait besoin d'un accord et c'est bien qu'il y ait un accord, mais on sait que l'accord ne sera pas suffisant et donc il faut aller plus loin. Donc, notamment, il faudrait qu'on réussisse un jour à donner un prix au carbone, parce que l'enjeu est quand même de laisser 80% des ressources fossiles dans le sol, sinon on ne réussira pas la limitation des émissions, et que pour ça, il faut renchérir le prix des énergies fossiles et rabaisser le prix des énergies renouvelables. On a besoin des villes sur des questions très concrète. Le développement des transports en commun, c'est donner de la capacité de se déplacer sans utiliser sa voiture, sans avoir recours au pétrole. Isoler les logements dans toutes les villes qui en ont besoin, ça dépend des latitudes où soit elles sont situées. C'est aussi pouvoir fournir un logement digne aux habitants en diminuant les consommations d'énergie fossile. Et ça, ce qui est passionnant, c'est que vous discutiez avec un maire chinois ou un maire, je pense à Bogota, ou un maire africain, les contextes sont extrêmement différents géographiquement, politiquement, historiquement. Les manières de faire la ville sont structurellement très comparables. Et donc, sur la planification urbaine, c'est-à-dire faire des villes où les habitants trouvent près de chez eux ce dont ils ont besoin, ils n'ont pas besoin de se déplacer à 10 km pour trouver un magasin ou des services administratifs, et donc ils n'ont pas besoin d'avoir recours à la voiture. Sur les politiques de végétalisation pour l'adaptation au réchauffement climatique, on est vraiment sur un apprentissage, un échange et une acquisition de compétences entre collectivités qui est passionnante.
Alors, vous citiez des villes du monde tout à l'heure, mais le Grand Lyon, la métropole qui est à côté de chez nous, à Bourgoin et dans le nord Isère, comment se situe-t-elle?
La métropole, depuis 2008, a mis en place un plan énergie-climat qui a une originalité, c'est que c'est pas celui de la métropole en tant qu'institution. Elle a réuni les acteurs de la société civile, c'est-à-dire les entreprises, les autres collectivités, les universitaires, le conseil de développement avec les associations, et on a dit, écoutez, en réalité, tout seul, c'est-à-dire le Grand Lyon tout seul, on ne sait pas faire. On peut séparer la transition. Donc comment, vous, quel est votre intérêt pour aller dans cette transition climatique, limiter les émissions de gaz à effet de serre, et quels sont vos obstacles qui vous empêchent d'y aller? Et on a travaillé 2 ans en leur demandant leurs propositions, et on a eu 450 propositions qu'on a chiffrées avec 3 critères. C'est l'efficacité, c'est un nombre de tonnes de carbone évitées, le prix. Évidemment, 2 mesures ne sont pas forcément équivalentes d'un point de vue du prix, et la faisabilité, il y en a qui sont faciles à mettre en œuvre et d'autres plus difficiles. Et de ces 450 propositions, on a tiré à peu près 120, et avec ces 120, on a calculé, on a une trajectoire de transition énergétique qui est chiffrée, donc en euros, en tonnes de carbone, et qui est où chaque partenaire s'est engagé. Et aujourd'hui, nous avons été la première ville, la première agglomération plutôt, à créer un plan climat-énergie de tous les acteurs du territoire, et voté pas seulement par le conseil communautaire, le conseil métropolitain, mais voté par les 80 partenaires, c'est-à-dire les entreprises se sont engagées, le MEDEF s'est engagé, les associations se sont engagées sur ce scénario. On a un vrai scénario de transition énergétique du territoire. Après, c'est pas parce qu'on a voté qu'on va le réussir, mais quand tout le monde l'a voté, que les entreprises se sont engagées, que les chambres de commerce s'est engagées sur ces chiffres, que les associations s'engager, on est dans une dynamique de mise en œuvre qui est plus facile. Et cette méthode, en fait, on me demande souvent de la présenter parce qu'elle fait école un peu partout, en disant on ne peut pas réussir sans mobilisant tous les acteurs de la société civile et tous les acteurs institutionnels. Et donc, c'est comment, aujourd'hui, on met en œuvre cette dynamique de transition et comment cette dynamique de transition, très pragmatiquement, elle provoque un investissement économique fort sur le territoire, parce qu'on a besoin d'un investissement fort sur la sobriété, sur les énergies renouvelables, et on a besoin aussi d'une réflexion sur comment on fait la ville, autant pour limiter les émissions sur la planification urbaine que pour l'adapter au réchauffement qui aura lieu, parce qu'on va avoir un réchauffement, s'il n'est pas limité, qui sera extrêmement brutal, et on ne sait pas si nos villes vont rester vivables. Donc, et là aussi, on a besoin de toutes ces politiques. Et donc, on était parmi les collectivités assez précurseurs. Et du coup, on me demande souvent de participer avec d'autres villes, d'autres continents ou d'autres collectivités pour comparer et pour apprendre les méthodes. Et je crois que ce qu'on a fait ici, et je peux vous dire que c'est très regardé, y compris sur les autres continents.
Vous avez des exemples concrets
de réalisation?
Oui.
Ah ben bien sûr, évidemment. Vous avez aujourd'hui, par exemple, un quartier comme la Confluence. L'objectif est de tripler le nombre d'habitants avec la même empreinte énergétique et climatique d'ici 2020. C'est-à-dire diviser par 3 les consommations énergétiques individuelles et les consommations énergétiques. Ça implique plus de transports en commun, ça implique des bâtiments efficaces avec l'immeuble Icari, enfin l'îlot Icari, c'est plusieurs immeubles qui ont un îlot énergie positive. Ça implique là une innovation qui est un réseau de chaleur à biomasse avec méthanisation en bois, c'est-à-dire vaporisation, une innovation technique qui permet d'accroître l'efficacité énergétique. Il y a le travail sur le schéma directeur énergétique de l'agglomération en modélisation. Le quartier le plus difficile à modéliser, c'est la Part-Dieu, c'est ce qu'on a choisi pour modéliser tous les flux énergétiques. Il y a le travail sur le plan local d'urbanisme qui est en refonte. Comment on fait pour créer un plan local d'urbanisme, donc une planification urbaine compatible avec la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre? C'est ce qu'on est en train de travailler. Ça veut dire quoi? Une planification énergétique qui permet la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire aussi la préservation des espaces agricoles et naturels pour éviter l'étalement urbain. Enfin, ça impacte toutes les politiques publiques, mais aussi les manières de faire des acteurs de la société civile. Et je peux vous en citer beaucoup d'exemples, et ça change au moins les choses. Tout l'enjeu, c'est de dire on peut faire les choses sans que ça soit, parce que l'université de Lyon nous a fait une étude en montrant auprès des habitants, on fait une longue enquête avec des sociologues, avec des étudiants, etc., où le réchauffement climatique est perçu par les habitants comme un facteur d'angoisse. Tout le monde perçoit ça comme un changement où on va vivre moins bien. Et en fait, chacun repousse un peu le truc en disant « mais bon, on sait qu'on va vivre moins bien, donc plus on le repousse, mieux c'est ». Et en réalité, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer qu'en prenant en charge véritablement la sobriété, on peut inventer un monde où on vit mieux, mais on vit plus juste et plus écolo, où on arrive à vivre de manière plus agréable. C'est par exemple s'alimenter localement avec des produits de saison, plutôt que faire venir des tomates du Chili ou d'ailleurs avec un bilan carbone déplorable et plein de pesticides. C'est pas forcément vivre moins bien. Et je peux vous multiplier sur toutes les politiques. On doit, et c'est la conviction de tous les pouvoirs urbains, on n'a pas le choix. Soit on va vers une catastrophe, soit on invente les solutions qui sont socialement plus justes et pour tout le monde plus agréables. Alors, il faut réinventer les villes, quoi.
On a compris que le monde de la société civile développe énormément d'initiatives, que les collectivités territoriales, vous en témoignez, développent elles aussi à leur niveau tout ce qu'elles peuvent, parce que ça va devenir une nécessité vitale pour les villes et leurs habitants. Mais vous disiez aussi tout à l'heure qu'on arrive à un accord de la COP21 qui n'est pas totalement satisfaisant. Vous avez cité 3 degrés, et pourtant, oui, les résultats de l'accord de Paris nous donnent 1,5 degré comme l'objectif de l'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Il y a un accord qui a une part d'hypocrisie. C'est-à-dire que la progression, c'est que les États se sont mis d'accord sur le fait qu'ils étaient d'accord pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais ils n'ont pas dit comment. C'est-à-dire que les moyens, en gros, il y a quand même une évolution positive, c'est qu'à Copenhague, dans les COP suivantes, puisque Copenhague c'est la COP 15, on a la COP 21 parce qu'il y en a une chaque année, il y avait du négationnisme, il y a des États qui renient le réchauffement climatique, puis il y a des États qui disaient nous on y a intérêt, pour des raisons diverses et variées, où le réchauffement peut plutôt bénéfique pour nos villes. Aujourd'hui le bouleversement est tel que tous les États ont compris que ça allait être une dégradation des conditions de vie et des conditions d'organisation politique et sociale, et que ça sera, même si on ne fait rien, une catastrophe humaine, mais de grande ampleur. Donc tout le monde, il y a une augmentation, l'accord il signifie qu'aujourd'hui la prise de conscience, elle est réelle. C'est-à-dire que même, on voit au niveau des États-Unis, même dans des États fédérés aux États-Unis, il y a des États négationnistes. Aujourd'hui, à part l'ancienne candidate américaine liée au lobby pétrolier, à part quelques cas de figure très limités, aujourd'hui, tout le monde a compris. Et donc, il y a une conscience qui est partagée. Ça, c'est plutôt bien, parce qu'on va pouvoir avancer. Malheureusement, il n'y a quand même pas d'accord aujourd'hui, les accords sont pas à la hauteur et les États ont quand même tendance à essayer de faire porter les efforts par les autres.
Est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce 1,5 degré pour faire plaisir finalement aux pays les plus pauvres, aux îles qui risquent de se faire engloutir, mais derrière finalement on a mis des phrases au conditionnel, on n'a pas mis de contraintes.
Et c'est là que, de toute façon, dans le système de l'ONU, obtenir une unanimité, c'est impossible. La réalité, c'est que aujourd'hui, il y a un consensus, je dirais, culturel, il n'y a pas les moyens en face. Et je pense que si la société civile se mobilise pas fortement, si les villes font pas des politiques très fortes, on échouera. Aujourd'hui, réellement, l'accord nous permet une mobilisation de la société civile et des acteurs non étatiques forts en s'appuyant sur l'accord en disant « Vous vous êtes engagé à 1,5 degré, maintenant mettez les moyens en face ». Par contre, s'il n'y a pas de mobilisation et des citoyens et de la société civile et des collectivités et des pouvoirs, des organisations non gouvernementales, cet accord, il sera lettre morte. Cet accord ne nous permet que d'avoir une mobilisation plus forte et de mettre la pression sur les États pour dire tenez vos engagements et mettez les moyens. Si on se dit les États sont engagés, c'est bon, on s'est résolu, on a déjà perdu.
Donc il faut maintenir la pression à tout prix pour vous.
Il faut maintenir la pression. Et ça c'est fondamental, et deux, prendre conscience qu'aujourd'hui le réchauffement climatique, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un problème pour la planète elle a vu d'autres, hein. Moins 5 degrés ou plus 5 degrés à Lyon on a l'habitude de dire que plus 5 degrés on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais moins 5 degrés on sait ce que c'est, puisque moins 5 degrés c'était les glaciers à Lyon et la mer de glace qui arrivait à 20 km de Lyon, mais par contre c'est la capacité, c'est l'adaptation des sociétés humaines à un changement aussi brutal, ça sera potentiellement une catastrophe humaine, donc la catastrophe elle est pas pour la Terre, elle est pour l'humanité. Et une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de justice sociale et de système politique juste si on ne prend pas en compte non seulement le réchauffement climatique, mais l'assèchement des ressources fossiles et aussi les conséquences écologiques, parce que en général, c'est comme toujours les plus pauvres qui en prennent plein la gueule quand il y a la pollution de l'eau, quand il y a la pollution de l'air. Il y a eu l'étude de Dixmiro à Paris qui disait qu'on meurt 4 fois plus de maladies liées à la pollution atmosphérique dans les quartiers pauvres qu'en dans les quartiers riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un lien très fort. Et moi, par exemple, j'ai eu des discussions avec des membres du mouvement des paysans sans terre brésiliens. Ils font un lien direct entre préservation de l'environnement, lutte contre le réchauffement climatique et justice sociale. Il n'y a plus de système politique juste si on ne va pas vers une transition écologique. Sinon, il y aura une petite minorité mondiale qui s'accaparera les ressources et une immense majorité qui va tomber dans une pauvreté extrême. Et c'est ça qu'il faut renverser. On n'est plus dans l'arbitrage entre plus de justice sociale et l'environnement, c'est pour plus tard. Si on prend pas en compte et si on se bat pas sur les questions environnementales, nous n'avons plus de système politique qui assure une justice pour tous. Et ça, je trouve que moi, ce qui est passionnant un petit peu en marge de la COP, c'est de rencontrer des gens, notamment des pays du Sud, alors que nous, on a une tendance à dire l'écologie, c'est pour les riches. Non. Les pays du Sud et les mouvements citoyens, les mouvements sociaux des pays du Sud font un lien très fort entre cette bataille contre le réchauffement climatique et leur capacité de donner des conditions de vie dignes à tout le monde, y compris et surtout les plus pauvres. J'ai été marqué par, c'était un membre du mouvement des paysans sans terre qui disait, avec Internet, avec les connaissances, avec les capacités de mobilisation, nous sommes la première génération dans l'histoire de l'humanité à pouvoir bâtir un monde juste pour tous. Et moi, ça m'a frappé parce que quand on dit ça ici, on passe pour un rêveur à cause d'Internet. Quand c'est un membre du mouvement des paysans sans terre dont la tête est mise à prix par les grands propriétaires qui dit que effectivement, on est devant un problème énorme pour l'avenir, pour nos enfants, mais qui même pour nous, parce qu'on va le vivre en partie. Mais on est à la fois devant une situation potentiellement catastrophique au niveau mondial, où Daesh, c'est un pouillem de ce qui va se passer si on fait rien. Mais nous sommes aussi la première génération qui a la capacité d'organiser une société civile mondiale qui fasse pression sur le régime politique pour organiser un monde juste. Et ça, c'est à la fois stressant et passionnant, mais c'est un message qui nous vient du Sud, pour moi, qui est très fort. C'est que nous pouvons le faire et nous avons les moyens de le faire, nous avons les responsabilités de le faire et c'est une bataille pour la justice sociale en même temps que c'est une bataille pour l'environnement.
Mais il nous reste tout à construire en solidarité avec le monde entier, donc mais merci.
Il nous reste à mobiliser la société civile. Les Alternatiba le dit, on lâche rien. Eh ben, il faut y aller. On lâche rien. On prend des responsabilités dans les collectivités pour transformer les politiques publiques. Mais s'il n'y a pas de mobilisation sociale, évidemment, les responsables politiques peuvent aller ailleurs. Donc, il faut avoir conscience qu'on peut le faire, qu'il faut rien lâcher, qu'il faut organiser la société civile. Il faut trouver des alliances avec les partenaires économiques qui ont intérêt à y aller aussi. Et ça vaut le coup de se battre.
Alors on va maintenir la pression et j'espère que notre émission y participera comme une petite goutte amenée par un colibri. Merci beaucoup Bruno Charles.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole lyonnaise en charge de la stratégie énergie-climat. Merci beaucoup Bruno.
Merci.
Voilà, merci encore à Bruno Charles pour cet entretien par téléphone. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très 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 bonnes fêtes, une très bonne fin d'année. Nous nous retrouverons fin janvier pour un nouveau magazine d'espace public. Merci à tous.